Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Des invités, des chroniqueurs de la musique et de la bonne humeur.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien malgré le mauvais temps. Nous sommes le vendredi 30 avril 2021. Et effectivement, bon bah il pleut dans l'ensemble du Beaujolais et du Val-de-Saône depuis ce matin. Ça devrait se calmer dans l'après-midi petit à petit. Mais le week-end de façon générale s'annonce quand même assez humide. Côté température, et ben ça reste frais autour de 11-12 degrés, pas plus. Au programme de notre émission, de bien belles choses, vers 12h35, une toute nouvelle rubrique. La rubrique Zéro des de Marie Maglone. À 12h45, on a rendez-vous avec notre disquaire de l'Underground Store à Villefranche, c'est Pitch, pour nous présenter son choix musical de la semaine. Mais avant tout ça, on reçoit nos invités du jour. Ça ne vous a sûrement pas échappé, mais il y a eu de la musique, il y a eu de la poésie, de la culture en ce mois d'avril dans les rues de Villefranche. Et oui, on a pu voir des artistes du spectacle vivant en chair et en os, autrement qu'à travers un écran. C'est terrible que ce soit quelque chose d'exceptionnel, presque extraordinaire, mais c'est la réalité aujourd'hui. Ces événements festifs et joyeux ont pu avoir lieu grâce à un groupe de citoyens sans étiquette qui ont pris la belle initiative de créer ce qu'ils ont appelé avec justesse, je trouve, des bulles culturelles. Je trouve ça très joli, l'idée de bulles culturelles, et c'est d'autant plus joli quand on y rajoute le mot essentiel. On va parler dans quelques instants de ces événements, ces bulles culturelles essentielles qui ont embelli les samedis après-midi de Villefranche, avec nos invités. Ils sont trois en studio avec moi aujourd'hui, Karine, JC et Rémi. Avant de discuter un peu de musique, de culture, on écoute Mamzelle Bulle de Trio. Nous sommes ensemble sur Calade. Il est 12h15, merci d'être avec nous.
Mamzelle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamzelle Bulle, comme un funambule qui rêverait de s'envoler à l'envol d'un ballon. Bulle s'est accrochée, championne de l'aviation.
Bulle commence à s'élever
au-dessus des arbres. Un alpiniste anglais lui indique le haut de la montagne.
Mademoiselle n'est pas rassurée.
Elle se demande où le ballon se dirige.
Mademoiselle, tout en haut, avez-vous le vertige?
Mamzelle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamzelle Bulle,
comme un funambule qui rêverait de s'envoler,
balayé par un vol d'hélicoptère.
C'est fou le nombre d'habitants qu'on peut croiser en l'air.
Guidé par les planeurs, le bourdon d'un ULM qui tire derrière lui un drapeau avec écrit
je t'aime.
Dire bonjour aux avions, croiser des hôtesses de l'air.
Bonjour.
Des colombes, des pigeons battant des ailes à l'envers.
Mamzelle Bulle traverse les nuages, enfile un pull, il fait froid au-dessus des orages. Mamzelle Bulle, comme un ver luisant qui rêverait d'un feu follet.
Mamzelle Bulle tourne la tête en arrière, elle aperçoit un point qui ressemble à la terre.
Faut faire vite, une bulle ça peut éclater.
Elle croise Spoutnik, le satellite qui lui a tout expliqué.
Mamzelle Bulle n'est pas très noctambule, n'a pas prévu dans son pactage qu'il ferait noir dans les nuages.
Mamzelle Bulle, comme un papillon de nuit vers l'étoile qui l'éblouit.
Ciel étoilé, Bulle s'est accrochée. Et c'est dans la Voie lactée que Mamzelle décida d'habiter.
Ainsi dans le ciel, depuis des millions d'années, Madame la Terre observe cette bulle illuminée. Chaque soir, quand la nuit vient à tomber, Mamzelle Bulle surveille jusqu'à ce que le soleil l'interpelle.
Mamzelle Bulle,
oh la lune, hey, Lune, c'est le soleil qui te parle.
Oh, mademoiselle.
Oui, c'était Mamselle Bulle sur Calade, chanté par Trio. On va en parler un petit peu de Bulle aujourd'hui.
Ensemble sur Calade.
Et oui, nos invités du jour, ils sont avec nous pour nous parler de Bulle culturelle avec moi en studio. Et ça me fait plaisir d'avoir du monde en studio avec moi aujourd'hui. Karine, JC et Rémi, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, on s'est bien relayé là. Je trouve qu'on a fait chacun notre tour.
C'est bien.
C'est bien.
On sent qu'on a des musiciens, des artistes dans le studio. Vous avez organisé tout au long du mois d'avril ce que vous avez appelé des bulles culturelles essentielles. En quelques mots pour résumer, pour commencer, qu'est-ce que c'était que ces bulles?
Bah, c'est une initiative donc de citoyens pour réagir à la morosité ambiante, morosité due à la situation sanitaire, mais aussi quand même au choix du gouvernement et enfin, ce qu'on vit depuis un moment.
Ça faisait partie des trucs que je voulais vous demander. Est-ce que c'était le but, c'était de créer un moment récréatif, on s'amuse, ou est-ce que derrière il y a quelque chose de revendicatif? J'ai l'impression que il y a au moins les deux.
Il y a au moins les deux, exactement. C'est pas un spectacle, c'est pas une scène pour les artistes, puisque de toute façon actuellement ce n'est pas permis. Donc il y a bien de revendications par rapport à ça, mais la revendication elle n'est pas partisane, c'est pas forcément une revendication comme le mouvement des intermittents actuellement, c'est vraiment la revendication, c'est justement d'amener une bulle pour se ressourcer, pour sortir de nos bulles et pour parler du vivre ensemble. Voilà, et puis vivre ensemble des émotions, et puis aussi reprendre un peu la rue, parce que c'est un peu le terreau de nos petites cultures, avec un petit C ou un petit Q, comme on préfère. Voilà.
Et on va peut-être repartir du début, à la toute base. Bah déjà, on vous a présenté par des prénoms, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie individuellement, Karine?
Alors donc moi en fait je suis éducatrice, ouais, spécialisée déjà, et en parallèle en fait je peux dire que je suis éducartiste, si je peux, même si l'intitulé on s'en fiche un peu, mais c'est à côté de ça je suis comédienne, ouais. Enfin comédienne, j'ai fait du clown, de théâtre, et puis aussi un personnage de théâtre burlesque, et puis là en fait les bulles m'ont aussi permis dans la bulle de proposer des textes, un peu de poésie, puisqu'en fait ces espaces-temps un peu d'isolement, de ce manque de poésie dans la réalité m'a fait me dire de quoi j'ai besoin. Ouais. Si j'ai besoin de poésie et de sublimation, il faut que j'aille le chercher, et l'idée c'était de proposer des textes qui m'avaient touché et qui pouvaient toucher d'autres personnes, quoi.
Rémi, vous êtes musicien?
Je suis musicien à côté, sinon j'ai, on va dire, un autre travail. J'aurais préféré pas m'étendre, mais je fabrique des vaccins ou pas. Ou pas, parce que parfois on n'en fabrique pas. Bon, on n'y arrive pas tout de suite. Mais voilà, oui, effectivement, sinon je suis musicien à côté en amateur, on appelle ça comme ça. Et puis voilà, donc l'idée de la culture, le côté essentiel qu'on essaie de défendre, voilà, c'est parce qu'effectivement, quand on se retrouve à ne plus pouvoir jouer, sortir, partager des émotions, ça devient compliqué, ça devenait important de faire quelque chose, quoi.
De créer ces moments-là. Et vous, JC, vous êtes musicien également.
Et moi, je suis musicien et prof de musique aussi, et c'est mon activité principale. Ouais.
C'est le professeur.
Les bulles culturelles, ça a commencé quand et ça a commencé comment? Est-ce que vous vous souvenez? C'était il y a un mois.
Oui, parce qu'il y a eu quatre bulles.
Quatre rendez-vous.
Ouais, il y a eu quatre rendez-vous.
Il y en a même eu 5, puisque on a commencé déjà à jouer une fois dans la rue, voilà, à 3-4.
Un jour de pluie, comme là.
Un jour de pluie, place des Marais, on a croisé une dizaine de personnes qui nous ont fait des retours.
C'était magique.
Ouais, c'était magique pour ces gens-là, et du coup, parti de là, on a dit, mais pourquoi ne pas déclarer ça en préfecture, voir ce qui... Si ça passe, et c'est passé effectivement. Le sous-préfet a compris notre démarche, et du coup, on avait droit à sonoriser, on avait droit à une jauge de 200 personnes contre toute attente. Mmh. Et voilà, et donc après, il y a eu 4 bulles.
Donc à la base, c'était un événement informel, que vous avez un rendez-vous que vous êtes donné, on va jouer de la musique ensemble. Et comment est-ce que vous déclarez, vous avez le droit de déclarer, c'est un événement culturel, à proprement parler ?
Alors, ce n'est pas un événement culturel, c'est une manifestation, puisque justement, les événements culturels sont interdits. Donc c'est bien une manifestation, mais notre revendication, c'est celle de la rencontre. Alors pas forcément de la rencontre uniquement culturelle. La culture, c'est un vecteur, mais ce qui nous intéresse, c'est la rencontre des gens.
C'était la liberté d'expression. En numéro un, c'est la liberté d'expression, c'est-à-dire même de son être au monde, si je peux aller loin, mais là, c'est-à-dire d'être dehors. On parlait de l'essentiel. L'essentiel, c'était ce qui nous restait, c'était l'humain, et dans l'humain, je pense aussi beaucoup à l'isolement de beaucoup de personnes qu'on a pu croiser, et même celles qu'on connaît pas. Et on se disait que dans la ville, in situ, des gens qui marchent, des enfants qui passent, etc., d'entendre un peu de musique, des textes, ou cette petite sublimation du quotidien, si on peut dire, c'était semer ces graines-là, un peu de musique, d'humain, de partage, de rencontre, et qu'on pouvait le faire même avec cette réalité-là, à distance, avec les masques, parce que c'était important qu'on le maintienne. Ouais. On n'était pas à lutter contre ça, mais comment on peut faire aussi à réinventer les choses ensemble ? Qu'est-ce qui se propose ? Pas lutter contre ce qu'on ne peut pas, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que oui, ça peut être bien de le préciser, mais vous avez fait attention quand même aux mesures sanitaires. On pourrait se dire, entendre ça, ils n'ont pas respecté du tout les règles et tout, mais non, au contraire.
Non, en plus, on a une autre petite idée, toujours dans l'image poétique. Et c'était par exemple de dessiner au sol des cœurs. Donc Odile, qui fait partie aussi du groupe, a dessiné, même les enfants ont pu le faire après quand ils arrivaient, de dessiner des cœurs au sol pour marquer aussi ça. Et c'était bien redit à chaque fois dans les
c'était
bulles.
Les cœurs, c'était les emplacements.
Les 6 de cœur, en fait. C'était 6 par cœur. 6 de cœur pour donner.
C'est-à-dire, comment même avec les distances, on pouvait quand même être ensemble, et pas comme une restriction, mais comme une organisation, on va dire.
Les images, parce qu'effectivement, des fois, on ne se rend pas compte, on joue, mais quand on revoit les photos, et on se dit, ça va, les distances étaient là, les masques étaient là, globalement, quoi. On est quand même assez satisfaits de ça.
Les gens ont été respectueux, quoi.
Vous avez parlé de la liberté d'expression, de l'importance de la liberté d'expression en tant qu'artiste de s'exprimer, mais je crois que vous avez aussi beaucoup donné la parole et laissé les gens venir saisir le micro et avoir l'occasion aussi de s'exprimer. Ça faisait partie du projet de base, ou c'est sur le moment où vous vous êtes dit ce serait chouette de...
Complètement, c'est vraiment le projet. L'idée, c'est pas de mettre en avant des artistes, des groupes pro ou amateurs. Bien au contraire, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer. Alors évidemment, il faut qu'il s'exprime d'une façon, on va dire, culturelle. C'est pas non plus une tribune pour que les gens viennent raconter leur vie, et encore. Mais donc après, dès qu'on invite sans arrêt les gens à produire à venir... proposer une chanson, proposer un texte. On a pu voir des enfants qui ont joué, qui sont venus spontanément jouer de la flûte, du violon, des chansons, des chanteurs. On a eu des belles surprises de chanteurs, de chanteuses qui sont venus. Alors à chaque fois, c'est un peu au pied levé. Est-ce que tu la connais, celle-là ? Non. Alors on cherche les accords sur le téléphone.
Ouais, c'est improvisé à chaque fois.
Donc c'est totalement improvisé. Et puis aussi des musiciens qui nous ont rejoints, qu'on ne connaissait pas au début de cette initiative, et qui nous ont rejoints et nous ont retrouvés sur d'autres bulles.
D'ailleurs, j'en profite pour qu'on puisse dire merci à tous les gens qui ont participé. Parce qu'effectivement, déjà de réaliser le fait de ces impromptus, de ces improvisations, c'est quand même pas rien. Ça veut dire être à l'écoute, de fait. Mais ça veut dire aussi que la base des musiciens présents avait assez de souplesse et de technique, on va dire, pour accompagner des morceaux qui arrivaient sur le moment. Et tous les gens qui sont venus rejoindre aussi, de dire merci vraiment à tous les participants.
Il y a des gens qui ont un cran phénoménal. Il y a des gens qui sont là, je me lance, quoi, qui vont aller faire un rap, comme ça. Alors, c'est peut-être des gens qui ont la fibre artistique, qui l'ont peut-être déjà fait ailleurs. Mais faut y aller, quoi.
Ça surprend de voir quelqu'un qui arrive, que vous connaissez pas, qui prend le micro et puis qui envoie quelque chose.
Mais ça a été super. On a bon nombre d'anecdotes. Alors voilà, évidemment, dans des partages de moments comme ça, on en a beaucoup. Mais autant, j'allais dire, dans la prise du micro, parce que c'est pas rien quand on n'a pas l'habitude du micro et on est quand même malgré tout sous le regard. Mais je pense aussi beaucoup aux passants et particulièrement à des gens de tous âges, certains plus isolés au quotidien, et aussi moi j'ai quand même en tête des mamans et papas qui étaient très touchés parce que leur enfant de moins de 5 ans se retrouvait pour la première fois à entendre de la musique en live, à voir des gens danser, et c'était vraiment très touchant. Et même des personnes isolées qui voulaient qu'on leur les tienne au courant, parce que c'était le seul moment où ils voyaient des gens, et toute cette musique était comme un baume pour eux au quotidien, quoi. Donc là, pour nous, c'est ce qu'on souhaitait semer comme graine.
C'était l'objectif atteint dans ce que vous avez voulu créer.
Exactement.
Et l'idée qu'effectivement, il y a une personne qui se pointe et qui chante du Boris Vian, Place des Marais, un jour de... Voilà, pour le coup, j'y sais... des trucs, parce que c'est des cascades, hein, moi je connaissais même pas les morceaux, mais le gars il nous chante ça, et la semaine suivante il venait avec sa basse et la bulle commençait à enfler, et voilà, c'est magique.
C'est quoi l'avenir de ces bulles culturelles? Est-ce qu'il y en a un? Et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous projetez?
Alors là, dans l'immédiat, dans les 15 jours qui viennent, il n'y aura pas de bulle, puisque de toute façon, il y a le 1er mai demain, donc il y a déjà un événement dans la ville. Il y en a un aussi le 9, donc dimanche suivant, qui sera la marche climat. Et puis un certain nombre d'entre nous y participent. Donc on fera pas de bulle le samedi 8. Et puis après, l'avenir, ça va dépendre en fonction... Ça va dépendre déjà de l'évolution des contextes sanitaires et des contraintes décidées du haut. Et puis du sens que tout ça peut continuer de prendre en fonction de cette évolution. Nous, on a plutôt envie de continuer parce que c'est une très belle aventure. Ouais.
En tant que vous, en tant qu'artiste, on l'a entendu. J'ai l'impression que ça a fait du bien à beaucoup de monde, ceux qui vous ont entendu, qui ont eu l'occasion de venir s'exprimer. J'imagine que vous aussi, c'était ça a fait du bien, quoi, d'avoir un public, d'avoir vraiment une relation avec des gens, voilà.
Très enrichissant, parfois pas du tout pour les oreilles, parce que parfois c'est quand même des moments difficiles, parce que comme c'était tout en impro, mais ça c'est après coup, c'est des souvenirs magiques, voilà. Donc oui, ça c'était, nous on l'a super bien vécu. Et après, pour parler des choses qui nous ont un peu échappé, c'est surtout sur la dernière date particulièrement, on était devant des gradins, c'était bondé. C'était pas un spectacle. Pour nous, on s'est éloigné un peu du cœur des bulles qui devaient être vraiment. On voulait cueillir les passants là où ils étaient. Et là, on s'est retrouvé un petit peu au spectacle, là où on s'est dit voilà, il faut qu'on trouve une autre formule, qu'on voit au niveau de la com. Et il y a tellement un besoin des. C'est normal, hein, les gens sont refaits, quoi, d'entendre un peu de musique. Il y en a qui descendaient un peu comme ça, mais. Mais voilà, on veut éviter un peu ce, quand même ça.
Ouais, ce dont tu parles, c'était au parc vers Morel. Et effectivement, la disposition des lieux faisait que ça prenait des allures de concert. Et c'est pas ce qu'on souhaite, quoi.
Ouais.
C'est pour ça l'idée, c'était pas d'être sous le regard. Alors bien sûr, pour ceux qui ont déjà joué devant un public, il y a quelque chose. Mais c'est, quand je dis pas sous le regard, c'est plus la synergie que ça propose, ces échanges-là. On revient encore une fois à l'humain, parce que c'est vraiment cet échange-là, quoi. Une belle mélodie, un beau texte, une tendresse parce qu'on a un enfant qui joue. C'est vraiment cette vibration-là, très humaine, émotionnelle, qui était intéressante à vivre. Je dis pour moi, mais je ne suis pas la seule, parce que c'est bien, encore une fois, c'est bien ce qu'on a voulu semer, c'est ce qu'on a récolté, quoi.
Et on parle beaucoup de musique, mais en fait, nous, ce qu'on souhaitait, ce qu'on souhaite toujours, d'abord, il y a eu des clowns, il y a eu des contes, il y a eu évidemment des textes avec Karine. Et nous, vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir ça à toute forme d'expression. On a même, on aurait souhaité qu'il y ait des plasticiens qui nous rejoignent.
La sculpture,
de la
sculpture,
c'est pas des danseurs sur glace. Donc voilà, c'est pas du tout fermé au seul domaine de la musique, quoi.
Toute forme d'art. Si on veut suivre, alors je sais pas comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut se tenir au courant des événements
Alors c'est toute la difficulté de ce projet, à savoir qu'on change de lieu à chaque fois. En fait, on n'a pas de programme, ça on l'a bien compris, c'est pas un spectacle, donc à chaque fois on improvise. On n'a pas de structure non plus organisatrice, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme sur un réseau social, enfin comment on appelle ça, sur Signal,
messagerie, quoi.
Une mission de messagerie, où sont invités tous ceux qui sont intéressés par cette aventure. Et chacun d'entre nous, s'il le souhaite, peut déposer en préfecture une bulle. C'est pas, il y a pas un trio ou un quoi de.
C'est pas une association.
Il y a pas de structure dirigeante. Il n'y a pas de lieu défini. Et comme on souhaite effectivement que ça soit, c'est pas une tribune partisane, militante ou liée à une manifestation précise, un groupe. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment rencontrer les gens. Et c'est pas non plus une. On a peur de que ça devienne aussi un quant à soi pour un public déjà averti, soit dans des cadres militants, soit dans des cadres culturels. Donc on souhaite pas trop communiquer. À la fois on souhaite communiquer, bien entendu, et on souhaite pas trop communiquer pour pas que ça devienne le rendez-vous des amis ou le rendez-vous.
Et finalement plutôt interpeller les passants, comme vous disiez.
Tout à fait. Et que ça reste un heureux hasard pour les gens qui passent.
Ouais, c'est ça qui fait le côté magique aussi, j'imagine. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ces bulles culturelles essentielles qui ont eu lieu tous les samedis. C'était de 16h à 18h à peu près à Villefranche. Je ne sais pas si finalement on espère que ça va continuer. Enfin, si ça existe, ça, c'est parce qu'il y a un besoin, c'est qu'il n'y a pas de culture. C'est comme les banques alimentaires. Si ça existe, c'est parce que des gens meurent de faim. Enfin, j'exagère peut-être, mais si ça existe, c'est parce qu'il y a un manque. Si ce manque n'existe plus.
Alors, c'est la fameuse question sur l'avenir des choses, mais à la fois, ça pose quand même la question de la fréquentation culturelle, c'est-à-dire que il y a tout de même des, comment dire, même si les lieux de culture se réouvrent, est-ce que tout le monde a accès à la culture, et est-ce que ces cultures se mélangent, est-ce que ces rencontres ont lieu, et voilà, peut-être qu'il y a du sens dans ça pour l'avenir.
Donc il y aura toujours besoin d'une manière ou d'une autre de ces bulles culturelles.
C'est une question.
C'est une ouverture. En tout cas, je pense que ça a fait du bien à beaucoup de monde. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur Calab. Je vous souhaite une excellente journée, et puis le plaisir de vous revoir dans les rues de Villefranche. À très bientôt.
Merci à toi.
Mathieu. Merci.
Ensemble sur Calade.
Grand Corps Malade nous chante tout de suite un titre qui s'appelle Pas Essentiel.
Je vais
de sortir de chez moi et marcher dehors. M'arrêter un instant, regarder le ciel. Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or. Je vais kiffer voir ça, vu que c'est pas essentiel. Je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi. Regarder les gens renaître au pluriel. Je vais parler en silence et sourire à haute voix. Je peux faire ça longtemps, vu que c'est pas essentiel. J'aurais envie d'une BO sur mon film du jour. Alors je vais mettre du son dans mes deux oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important, vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant. Quelques mois sans beaucoup de couleurs, confinement noir et blanc, délivrance arc-en-ciel. Je vais offrir des chansons, des sourires et des fleurs. J'en aurai plein les mains vu que c'est pas essentiel. Je vais aller traquer avec les premiers venus. Si pour faire la fête sans un bon potentiel, avec la famille, les potes et des inconnus, on va lever notre verre à ce qui est non essentiel. Puisque la vie est une succession de superflus, soyons super fous et superficiels. Protégeons le futile et sur ce je conclus. N'écoutez pas cette chanson, elle est pas essentielle. Pas essentielle. Pas essentielle. C'est quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant.
Encore malade sur Calade avec le titre Pas essentiel. On va écouter tout de suite une toute nouvelle rubrique.
Ensemble sur Calade. 100.9 Calade.
Allez, tout de suite pour une toute nouvelle rubrique d'Ensemble sur Calade, la rubrique Zéro déchet de Marie Maglone. On retrouve Carole Sénélard. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous allez bien, en forme ?
Oui, merci, et vous ?
Bah, très bien, très bien. Je suis content de se lancer dans cette nouvelle rubrique. On va parler de zéro déchet. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ? Qu'est-ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui ?
Alors, dans un premier temps, je vais définir ce que c'est qu'un déchet, ce qu'on peut en faire, comment on peut les réduire et où les placer pour éventuellement les trier. Et puis, on va un peu plus, comment dire, aller en profondeur dans la visite que moi j'ai pu faire de l'incinérateur de Villefranche. Donc, on va se recentrer sur les déchets que nous produisons en Calade et ce qu'ils deviennent.
Très bien. Eh ben, on vous écoute. C'est parti.
Alors, il faut savoir qu'en France, on génère beaucoup de déchets. C'est environ 420 kilos par an et par personne. Mais ça a beaucoup évolué depuis plusieurs années, puisque en 1960, on était plutôt à environ 400 grammes par jour et par personne.
Ah ouais.
Voilà. Donc, ça a énormément évolué.
Ouais.
On produit de plus en plus de déchets. Et donc, on va définir ce que c'est qu'un déchet. Donc, un déchet, c'est tout ce qui reste une fois qu'on a produit ou qu'on a utilisé quelque chose. Alors, ça va être la peau de banane quand on aura fini de la manger, par exemple. Ça, c'est un déchet qu'on va pouvoir composter, qu'on va pouvoir recycler naturellement. Et puis, bah, vous avez l'emballage de votre pot de, enfin, de votre yaourt. Donc, ça sera le pot de yaourt, par exemple. Mmh. Mais ça peut être aussi tous les déchets qu'on utilise, enfin, qu'on utilise, qu'on génère pour produire quelque chose. Quand on produit une voiture, quand on construit une voiture, on va découper des pièces dans du métal et il va y avoir des déchets qui vont être générés. Et puis, il y a de l'énergie aussi qui est utilisée. Ouais. Et donc, cette énergie qui est utilisée, elle peut aussi générer des déchets. C'est le fameux CO2, ouais. Voilà, etc., ou l'impact carbone. Donc, on a plusieurs solutions pour réduire ces déchets. Ebea Johnson, la Française qui habite aux États-Unis, qui a lancé un peu toute cette mouvance autour du zéro déchet, dit toujours que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ouais. Donc aujourd'hui, on sait qu'on en produit, on peut essayer d'en produire moins, mais on peut aussi voir ce qu'ils deviennent et comment les réduire pour justement avoir moins de déchets à trier et à recycler quand c'est possible de les recycler au quotidien. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'ils deviennent justement ces fameux déchets, les déchets courants ?
Alors on a plusieurs solutions. On a tous les déchets qu'on peut déjà trier, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez dans votre sac poubelle, ça ne sera pas trié. Ouais. Ça va arriver dans un incinérateur ou dans une décharge, parce qu'il faut savoir qu'en France, soit nos déchets sont enfouis, soit ils sont brûlés. Donc on préfère évidemment la deuxième solution, qui est bien meilleure, puisque le déchet peut, en brûlant, générer de l'énergie. C'est ce qui se passe à Villefranche, puisque c'est une EVE, c'est une unité de valorisation énergétique. Mais on va y revenir. Quand on a des déchets, il faut se demander ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut, comment on peut les revaloriser. Donc, on a plusieurs bacs qui sont mis à notre disposition, soit au restaurant, soit dans notre bureau, soit dans notre maison, ouais. Au quotidien. On peut déjà trier ces déchets. Donc, dans le bac vert, on va pouvoir mettre tous les verres produits pour être des emballages alimentaires. Donc, on va y mettre notre bouteille de vin, notre bocal de confiture, notre bocal de conserve de haricots verts, par exemple. Tout cela va être lavé, broyé, trié, fondu à plus de 1500 degrés pour reproduire d'autres bouteilles, d'autres bocaux, d'autres contenants en verre. Ouais. Par contre, il ne faut jamais y mettre une assiette en verre ou en porcelaine, un verre dans lequel vous buvez, sauf le verre de moutarde, parce qu'il a déjà contenu un aliment, mais c'est important.
Oui,
pourquoi
c'est
parce que ces verres-là ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas le même point de fusion. Et donc, du coup, ils vont fondre, mais ils vont générer des défauts dans les nouveaux contenants, et donc, du coup, ils vont être recalés.
D'accord.
Donc, c'est important voilà, de faire la différence entre le verre qui a contenu un aliment, donc c'est facile à retenir, tous les verres qui ont contenu un aliment, on peut les mettre dans le bac vert. Les autres, on va les mettre en déchetterie, ce sera mieux.
Ouais.
Dans le bac jaune, on va trier le plastique, le carton, les emballages métalliques, par exemple, comme l'acier ou l'aluminium, tout ce qui ressemble à un flacon ou à une bouteille. On peut y mettre notre carton pizza, mais il faut qu'il soit vide, évidemment. Ça paraît logique, mais pas de reste alimentaire. Voilà. Et donc, tous ces cartons aluminium vont être triés, vont être, recyclés pour refaire du carton, de l'aluminium, etc. Il faut savoir que l'aluminium est recyclable quasiment à l'infini. Donc, une canette est recyclable. Elle sera bien meilleure en termes de déchets qu'une bouteille en plastique. Puisque le plastique, lui, peut aussi être recyclé, mais au bout d'un moment, il n'a plus les mêmes capacités. On est obligé de remettre du nouveau plastique, entre guillemets, des nouvelles billes de plastique.
C'est quand même limité.
Pour le revaloriser. L'aluminium, lui, comme la tablette aussi, vous savez, l'emballage de la tablette de chocolat.
Ouais.
Alors, on peut le recycler parce qu'avant, on disait qu'il ne le prenait pas. Par contre, il faut en faire une grosse boule pour qu'elle soit repérée. Donc, si vous mangez beaucoup de chocolat en tablette, vous récupérez vos emballages, vos papiers d'aluminium, mais vous en faites une boule de la taille environ d'un œuf ou d'une balle de tennis avant de la mettre dans le bac jaune. Comme ça, elle sera vraiment recyclée.
D'accord. D'accord. Il faut que ça ait un certain volume. Vous avez dit repérer, c'est au moment où ça.
C'est au moment où c'est trié par les machines quand ça arrive. C'est-à-dire que le bac vert, le bac jaune, le bac bleu, ils sont récupérés, stockés dans des usines de recyclage.
Ouais.
Donc on sait à peu près tout recycler, mais il faut quand même trier en amont. Et effectivement, oui, il faut que les. C'est des lecteurs laser qui font le tri. Et puis l'humain, évidemment, puisque. Ouais. qu'ils sont obligés de repasser des fois pour finaliser le tri. On peut aussi recycler sa boîte de lait, puisqu'aujourd'hui, on sait séparer l'aluminium du carton. Donc ça, c'est important. Ouais. Dans certaines communes, les pots de yaourt sont recyclés ou pas. Donc ça, il faut se renseigner dans sa commune. Et puis, il reste le bac bleu. Alors là, ça va être tous les papiers dits graphiques, les journaux, les lettres, les courriers, ouais, les revues, les magazines. Mais pas le papier gras du boucher, par exemple. Voilà.
D'accord.
Lui, il doit aller directement à la poubelle.
Ouais.
Ouais. Donc une fois qu'on a fait tous ces tris-là, il va nous rester évidemment quand même encore beaucoup trop de déchets. Mmh. Et ces déchets-là, ils vont aller dans le sac poubelle et eux, ils vont arriver à l'incinérateur de Villefranche. Alors il faut savoir que l'incinérateur de Villefranche, il traite les poubelles de 260 communes. Ouais. Donc c'est près de 360 000 habitants dans les Calades, entre l'Ain, le Rhône et la Saône et la Loire. Donc c'est énorme, c'est 80 000 tonnes de déchets par an environ. C'est pour ça qu'on peut calculer que ça fait environ 420 kilos par an et par personne.
Ouais.
Et donc les déchets de l'incinérateur de Villefranche-sur-Saône sont donc brûlés à une certaine chaleur pour produire de l'énergie. Et donc cette énergie va permettre de chauffer des habitations, des collèges, des locaux qui sont sur la commune de Villefranche-sur-Saône. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une UVE, une unité de valorisation énergétique. Par contre, c'est important de trier en amont parce que vos poubelles, quand elles arrivent au centre, à l'incinérateur, elles ne sont pas triées. On considère que là, le tri a déjà été fait. Et donc, à l'incinérateur, on ne fait que malaxer les déchets, les mélanger pour que ça soit homogène et on va les brûler.
Mmh.
Donc, c'est important de le savoir et ça permet justement d'avoir un tri en amont et puis surtout, de prendre conscience de ce que deviennent nos déchets. C'est important.
Ouais. C'est-à-dire que si nous, on ne fait pas le tri, il sera pas fait derrière.
Il sera jamais fait.
Ouais.
Le flacon de gel douche, il faut le mettre dans le bac jaune.
Ouais.
Le papier gras du boucher, c'est dans la poubelle. Donc, c'est important de savoir, il faut vraiment se référer à ce qu'il y a de marqué sur les containers que nos mairies mettent à notre disposition pour savoir ce qu'on doit trier ou pas. Alors, le plus important aussi, c'est de trier son compost. Enfin, c'est d'avoir un compost pour trier tout ce qui est déchets alimentaires.
Ouais.
Les restes de repas, les épluchures, quand on cuisine aussi, on peut avoir des déchets, les miettes de pain quand on a fini de couper du pain,
ouais.
Tout ça, c'est des déchets alimentaires qui vont au compost. Il en existe à peu près de différentes tailles, qu'on peut avoir dans une cuisine, qu'on peut avoir sur un balcon, qu'on peut avoir dans un jardin si on a la chance d'avoir un jardin,
etc. En fait,
et donc ça, il ne faut vraiment pas le mettre dans la poubelle parce que c'est dommage.
Ouais, ça peut se décoller tout ça. Mais c'est moi je trouve le compost on sait jamais quoi en faire, j'ai pas de jardin donc qu'est-ce qu'on fait d'un compost?
Alors le compost, il faut le voir en trois étapes, c'est-à-dire qu'on va le mieux ça serait quand on n'a pas de jardin, c'est d'avoir un compost au pied de son immeuble si c'est possible,
ouais,
en faire la demande auprès de sa mairie pour avoir un compost à plusieurs dans un immeuble au pied de plusieurs maisons de ville, etc. On peut tout à fait le faire et l'entretenir. Les déchetteries récupèrent des déchets verts, donc on peut aussi l'emmener en déchetterie, puisque là, ils vont faire un compost géant. Et la déchetterie de l'Ave Maria a un compost géant.
Mmh.
Donc, ils récupèrent tous les déchets verts, alors que ça soit de la taille ou votre compost, finalement, de maison,
ouais,
enfin d'appartement, c'est-à-dire vos déchets alimentaires, peuvent être inclus dans ce compost-là, et donc ça va être vendu après sous forme de terreau pour remplanter, pour refleurir.
C'est chouette,
puisque le compost, en fin de compte, c'est vos déchets alimentaires qui sont grignotés par des vers,
ouais,
digérés et qui sont transformés en un terreau fertilisant finalement, puisque vous avez un peu de tout et du coup c'est très enrichissant et on peut effectivement si on n'a pas de jardin, on peut le mettre au pied, comme vous dites, dans la forêt, ouais, on peut le mettre au pied d'un arbre, dans la rue, on peut vraiment, mais il faut qu'il soit fait, il faut pas qu'il soit en cours. C'est pour ça que je disais, ouais, trois étapes, parce que la première étape, ça va être le stocker pendant une semaine. Après, vous allez le retourner et le mettre un peu plus loin et le retourner au bout d'une semaine. C'est-à-dire que ça vous permet d'aérer votre compost et ça lui permet aussi de se régénérer plus facilement.
D'accord. Et ça s'entretient.
Pour une maison, c'est bien d'avoir, trois bacs. Voilà.
D'accord. On fait passer de l'un à l'autre.
Et aérer son compost.
Mmh. Très bien. On sait beaucoup de choses maintenant sur nos déchets dont on n'était pas forcément au courant avant.
Merci.
Merci beaucoup, Carole, pour cette toute première rubrique, la rubrique Zéro Déchet de Marie Maglone. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on se dit à très bientôt pour en apprendre encore un peu plus sur les techniques de zéro déchet.
Avec plaisir, merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, après cette toute nouvelle rubrique, on enchaîne, on continue.
Vous aimez mieux les disques que la radio ?
Tais-toi, je réfléchis.
Alors, change de disque, ok ?
Je pense qu'on ferait mieux d'avoir recours à un spécialiste.
Le choix du disquaire.
C'est le meilleur expert ici, il connaît toutes ces choses.
Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée.
Allez, une belle pépite, rien que pour les banlieusards.
Et on continue avec un rendez-vous bien habituel du vendredi, c'est une tradition. On appelle effectivement notre disquaire Pitch pour lui demander son coup de cœur de la semaine. Salut Pitch.
Salut, salut Matt.
Ça va bien, en forme ?
Ouais, en pleine forme, comme les vendredis.
Chaque semaine, tu nous proposes un album à découvrir dans lequel il faut se plonger de toute urgence, avec des choix très éclectiques. Qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine ?
Alors, c'est une réédition, couleur, de grosse maison de disques. Pour ceux qui ont raté le coche en 1958, Michel Legrand sortait un album chez Columbia.
Ouais.
Et c'était assez incroyable. Donc, Michel Legrand, je n'ose pas le présenter. Il collabore principalement avec Miles Davis.
Ouais.
Et donc, cet album s'appelle Le Grand Jazz. Et il y a tellement plein de choses derrière ces deux légendes de la musique que c'est ma sélection de la semaine.
Mmh. Et 1958, Michel Legrand, je pense qu'il n'était pas bien vieux. Il devait être assez jeune au moment où c'est sorti.
Jeune. Il a déjà bossé pour Columbia. Et Columbia, en fait, ils ne l'ont pas payé. Ça tarde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet album, c'est justement une invitation dans les studios de Columbia aux États-Unis, et ils lui disent bon, au lieu de te payer ce qu'on te doit, on va s'arranger. C'est vraiment un compromis, cet album,
ouais.
Et ils lui proposent d'enregistrer avec tout le répertoire musical. Il a juste à choisir les gars qu'il veut. Donc Miles Davis est mis en avant, mais voilà le starring, il y a une trentaine de musiciens sur ce disque,
ouais.
Dont, alors je vais en oublier plein, mais il y a John Coltrane, il y a Ben, j'ai pas de listing sous les yeux. Hein,
alors moi j'ai une liste avec du Duke Ellington, du Louis Armstrong, Django Reinhardt, je viens de voir.
Alors sur celui-là, je suis pas certain.
Ah ouais, d'accord, il en a fait plusieurs.
Il y a eu un autre album, il y a eu une continuité après, ils ont fait, mais sur celui-là précisément, après, je parle de d'interprétation, il peut y avoir des morceaux qui ont été composés par ceux que tu viens de citer, mais vraiment en interprétation, en studio, Ben Webster, il y a Herbie Mann, mais j'en oublie tellement. J'ai dit Coltrane, mais il y en a vraiment, c'est incroyable. C'est juste incroyable, quoi. Et c'est ça, c'est fou, tu vois. C'est pour ça que je voulais mettre le point sur le fait que le gars est sous Columbia, il tarde à le payer, alors que c'est la multifirme, c'est le truc exceptionnel. Et il y a un compromis qui a peut-être joué énormément en sa faveur. Au final, au lieu d'encaisser l'argent, il a accepté d'aller à New York dans les studios de Columbia, d'enregistrer avec ses gars, et c'était quand même derrière, à mon avis, à découler tellement plein d'autres demandes.
Ouais. Et donc c'est un petit bijou qui est né au final d'un hasard, d'une histoire de compromis. Et donc cet album, il est réédité, c'est ça ?
Voilà, tout récemment, en janvier, fin janvier 2021, de mémoire. Petite édition couleur, très sympa, voilà, c'est bien enregistré, c'est bien fait. Et donc, obligé d'en parler sur Radio Calab.
Donc, Le Grand Jazz, avec Grand Jazz. Effectivement Michel Legrand et puis Miles Davis.
N'oublions pas d'en parler. En mi-juin est organisé un festival sur les musiques de films en hommage principalement aux compositeurs.
Ouais.
Et Julie Gayet, la principale organisatrice.
Ouais.
Et donc ça aura lieu mi-juin, c'est les Sœurs Jumelles, c'est par rapport au film aussi, Demoiselles d'Orangeport.
Ouais.
Voilà, et je serai intervenant là-bas, un double exposant, pour exposer sous cadre en verre une partie, enfin ma collection de pochettes de Michel Legrand.
Ouais.
Et j'aurai, en tant qu'autre exposant, un stand de vente de musique de film, de disques.
D'accord. Donc ça, c'est au mois de juin. Et ça a lieu
c'est
où?
C'est pas annulé. Si c'est pas annulé. Hein, ouais. Rien n'est certain. Tout est dans le flou, n'est-ce pas?
Effectivement.
Mais ils en parlent sur toutes les... partout, sur tous les médias. Ça a l'air d'être un très bel événement. Donc j'aurai la chance de...
Bon, on croise les doigts pour que ça puisse avoir lieu. En attendant, ce qui est sûr, ce qui est une certitude, c'est qu'on va écouter un extrait de l'album dont tu nous as parlé. Ça s'appelle Night in Tunisia, extrait de ce superbe album Le Grand Jazz. Merci beaucoup, Peach.
Trop bien, trop classe. Merci à toi.
À bientôt, bonne journée.
Salut, Matt.
Night in Tunisia par Michel Legrand et Miles Davis, entre autres, extrait de l'album Le Grand Jazz. Ce n'était pas une rubrique de Georges Boton, c'était une rubrique de notre disquaire Pitch pour le choix du disquaire. C'est là-dessus que va se terminer notre émission Ensemble sur Quelade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi à 12h12 pour une nouvelle émission. On se quitte sur ces superbes notes jazz. Très bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.